Bonjour à tous, amis auditeurs. C'est Sophie sur Radio Sud Plus pour une nouvelle émission de Pages en Partage. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet un peu parfois difficile, du deuil, mais surtout de la résilience. Et j'ai avec moi aujourd'hui Sylvie Pasquier. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sophie.
Donc pour parler de son dernier roman qui vient de sortir, qui s'appelle La joie miraculée. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes avec Sylvie. Donc Sylvie, puisque j'ai lu tes romans, je te connais un petit peu, mais je ne te connais pas en même temps. Je sais que tu es sage-femme, que tu vis au tampon. Alors oui, Radio Sud Plus, c'est la radio qui est au tampon. Pour ceux qui ne le savent pas, on est en haut de la tour des Azalées. Et donc, tu as aussi trois enfants, Lauriane, Corentin et Paul. Et c'est de Paul dont on va parler aussi et de toi aujourd'hui à travers les livres que tu as écrits. Donc, on va quand même le dire tout de suite, après la mort de ton fils à l'âge de 5 ans.
Oui.
Et puis, je voulais te demander, donc en préambule, est-ce que tu penses que tu aurais écrit aussi si la vie t'avait épargné, si tu n'avais pas eu cet événement dans ta vie ?
Alors, je ne crois pas. Je pense vraiment que j'ai commencé à écrire parce que j'avais besoin de poser des mots sur la vie de Paul et ensuite sur le deuil. Mais je ne serais pas forcément venue à l'écriture spontanément, sans avoir autre chose à dire. Là, j'avais vraiment le besoin de dire quelque chose.
Alors, est-ce qu'on écrit pour ne pas oublier, pour témoigner, pour mettre un peu de distance avec sa peine ou avec tout ça?
Alors il y a un peu de tout ça. Le premier livre qui s'appelle « Qu'il soit extraordinaire », c'est l'histoire de Paul, donc de mon petit garçon, mon troisième enfant. Je l'ai d'abord écrit pour moi, pour effectivement ne pas oublier. Il y avait beaucoup de choses que je voulais garder et je voulais les garder pour moi, mais je voulais aussi les garder pour mes deux autres enfants, qui sont un petit peu plus grands, Corentin et Lauriane. Et j'avais envie qu'ils aient ma version de l'histoire de leur petit frère. Donc au départ, je ne l'ai pas du tout écrit pour le publier. Je l'ai écrit à titre à visée familiale. Et puis l'édition après est venue, l'édition est l'histoire d'une rencontre. Et elle est venue dans un deuxième temps. Et la question s'est posée de est-ce que vraiment j'ai envie de partager cette intimité avec tout le monde ? Et surtout, à quoi ça sert ? Et c'est le « à quoi ça sert » qui m'a vraiment fait avancer dans l'écriture.
Et alors, est-ce que tu as pu répondre à cette question « à quoi ça sert ?»
Ouais. Bah, oui, c'est pour ça que je suis arrivée à le partager. C'est-à-dire que si ça sert à rien, autant que je le garde pour moi, j'ai pas forcément envie d'étaler ma vie. Mais si ça peut servir ne serait-ce qu'à une personne qui est dans la même situation, qui accueille un enfant un peu différent ou qui traverse une difficulté. Si ça peut servir ne serait-ce qu'à un couple ou qu'à une famille, alors c'est gagné.
Oui, bien sûr, parce que je pense que, bon, sans doute d'autres couples ont traversé aussi ce genre d'épreuve, mais toi, tu as su trouver les mots justes pour le dire en faisant partager l'intimité de ta famille. Mais j'ai déjà parlé de ton premier livre hein, dans une émission. Moi, ce que j'avais trouvé justement, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour familial. J'ai retrouvé un peu cette ambiance aussi familiale. Moi, j'ai eu aussi trois enfants. Quand ils sont petits, toute cette tendresse, toute cette douceur, tout ce qui est. Et bon, bien sûr, il y a les épreuves qui traversent cette famille, mais il y a aussi un peu aussi ce cocon familial qui est décrit et qui fait chaud au cœur à tout le monde.
Ouais, bah c'est aussi ce qui nous porte et c'est ce qui nous reste surtout. Quand effectivement on perd un enfant, il y a quelque chose qui se disloque et il y a ce qu'on veut garder. Et ce qu'on veut garder, c'est ça, c'est la tendresse, c'est l'amour qu'on a partagé. Et le deuxième livre, il est arrivé... Alors après le premier, je me suis dit non, je n'écrirai plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne me considère pas comme écrivain. J'ai un métier par ailleurs qui m'occupe bien et que j'adore. Et je me suis dit, bon voilà, c'est fait, c'était une étape, je suis très contente de l'avoir vécu, ça m'apporte plein de choses, plein de rencontres merveilleuses, voilà, c'est parfait. Et puis finalement, l'écriture s'est imposée à moi une deuxième fois, parce que je me suis rendu compte que le deuil d'un enfant, et le deuil en général, c'est un sujet extrêmement tabou. C'est très difficile d'en parler, ça suscite des émotions et des réactions qui sont souvent compliquées. Et je me suis dit, on a besoin, en fait, la mort, elle fait partie de la vie. S'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on va mourir un jour. Alors certes, on veut l'oublier, mais pourtant, c'est la réalité et c'est la seule certitude qu'on ait. Et cette mort-là, la réintégrer dans la vie et dire, c'est pas une fatalité et c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une épreuve. Effectivement, le deuil, c'est compliqué, c'est un chemin douloureux, c'est assez laborieux parfois, mais c'est aussi tellement de joie. Et pour moi, c'est une telle découverte qu'il puisse y avoir de la joie dans le deuil que j'avais besoin de le partager en me disant ça va servir à d'autres. Et encore une fois, c'est donner du sens à quelque chose qui au départ n'en a pas beaucoup.
Ok, très bien. Alors j'entends pourquoi tu écris. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton éditeur ? Donc c'est les éditions du 20 décembre que tu as, avec qui tu as travaillé, on va dire.
Tout à fait, oui. J'ai rencontré Gaëlle Berthilde un peu par hasard, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais demandé à quelqu'un qui ne me connaissait pas vraiment de relire ce que j'avais écrit, parce que je voulais avoir un regard extérieur sur la forme, pas sur le fond. Et cette personne, en le lisant, s'est rendu compte que c'était un témoignage et m'a dit « Je ne suis pas capable de faire ce que tu m'as demandé. Par contre, je connais quelqu'un dont c'est le métier. » Et c'était Gaëlle Berthilde, dans l'occurrence. Donc, nous nous sommes rencontrés. Et vraiment, ça a été un coup de foudre amical, c'est-à-dire que c'est vraiment tout de suite on a accroché, il y a quelque chose qui est passé et j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure, certainement grâce à elle, parce que c'était elle.
On va sans doute recevoir Gaëlle Berthilde dans une prochaine émission, donc on aura aussi l'occasion d'avoir sa version. Et est-ce que tu écriras encore ? Ça, c'est une dernière question par rapport
alors,
à cette écriture.
Du coup, je ne ferme plus la porte puisque la première fois, je me suis dit non, je n'écrirai plus. Et puis, c'est revenu un peu de façon naturelle. Je ne ferme pas la porte au fait de continuer à écrire. Mais bon, je pense que j'ai assez parlé de moi pour le coup.
Non, mais ça pourrait être un tout autre
sujet.
Ça
peut être complètement différent. Pourquoi pas ? Finalement, j'ai pris goût effectivement à l'écriture. Je trouve que c'est un exercice extrêmement apaisant qui fait beaucoup de bien. Donc, je ferme pas la porte à un prochain écrit.
Alors, si tu veux bien, on va faire une petite pause musicale pour écouter ce qu'en dit Ben Mazué sur la chanson J'écris.
Oui.
J'écris gonflé d'espoir ou triste comme un dimanche. J'écris quand je veux y croire ou quand ma bonne étoile flanche. L'essence de mon âme brille quand je mets des mots sur les émotions qui torpillent mon cœur jusqu'au stylo. J'écris pour expliquer, parce qu'en expliquant j'éteins un malaise qui veut pas me lâcher. Depuis le matin j'écris, tant pis si c'est mauvais et tant pis si c'est perdu. C'est une question d'équilibre et c'est pas toujours pour être lu. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris dans mon orage, j'écris pour que tombe sur les pages
ma vie.
Des mots qui font sécher couler les larmes.
J'écris
sur nos virages,
j'écris
et ton visage
me dit
qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle arme.
Pas cessé, même après s'être quitté. D'être ma plus belle arme. Pas cessé, oh, même après s'être quitté. Même après s'être quitté, d'être ma plus belle âme.
J'écris à mon pote, à ma mère, à ma femme, à mon gosse, à mes peurs, à mes cris, à ma crasse, à la terre, à la sale sorcière de mon cœur. Quand la vie de tempête imminente agite un drapeau rouge et noir, que le bruit dans ma tête augmente pour le faire taire, moi j'en parle.
Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème
chaque moment compte. Pour rendre hommage,
j'écris
dans mon orage,
j'écris
pour que tombe sur les pages des mots qui font sécher couler des larmes.
J'écris
sur nos virages,
j'écris
et ton visage
me dit
qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle âme.
Pas cessé, même après s'être quitté. D'être ma plus belle âme. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle âme.
Danse, prie, cours, chante, presse ton âme de s'exprimer. Dans ce monde lance des pics, faudra s'en protéger.
Danse, prie, cours,
chantes, presse ton âme de s'exprimer. Moi j'aimerais n'avoir qu'à me soucier de rendre hommage, d'écrire dans mon orage, d'écrire pour que tombe sur les pages de ma vie des mots qui font sécher couler des larmes, d'écrire sur nos virages, d'écrire ton visage, je me dis qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle âme.
Radio Sud Plus Réunion, la sensation.
Radio Sud Plus Réunion.
Alors c'est Sophie à nouveau sur Page en Partage avec Sylvie Pasquier aujourd'hui pour parler de son livre La Joie Miraculée, donc qui est en fait qui fait suite au premier livre que tu as écrit, qu'il soit extraordinaire. Donc on a déjà parlé de ce livre. Donc moi, ce qui m'a, oui, comme je te l'ai déjà dit, ça m'a frappé la nostalgie. J'ai un peu aussi la nostalgie de cette vie familiale, ouais, joyeuse des enfants petits. Mais justement, ce que j'ai trouvé de différent par rapport au deuxième, c'est que le premier est beaucoup axé sur la famille, on voit un petit peu tout le monde, hein. Et le deuxième est quand même axé sur toi, ouais, donc sur ton ressenti, sur comment tu as traversé l'après. Ouais. Et donc c'est plus un livre sur toi, j'ai envie de te demander, et les autres aussi, comment est-ce qu'ils l'ont traversé, ça, c'est pas un autre bouquin, mais enfin...
Ouais. Alors le deuil, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai découvert, c'est très personnel. Mmh. On peut... perdre dans un couple, on perd tous les deux un enfant, c'est chacun notre enfant, mais pourtant on ne le vit pas de la même façon. Pour les enfants, ils perdent leur petit frère, mais c'est encore différent. Ouais. On avance chacun avec nos armes, avec ce qui nous aide, et ce sont des choses qui sont extrêmement différentes d'un individu à l'autre. Et du coup, alors on ne peut pas forcément céder sur ce chemin-là. Effectivement, on est ensemble et on sait qu'on...
C'est intéressant ce que tu dis, c'est que dans les... Ouais, les familles peuvent aussi se dire que j'ai l'impression que je ne peux pas aider les autres, mais non, chacun doit faire
chacun
aussi
a
ce,
un
son chemin.
Chemin à faire. On a un chemin personnel à faire dans ce deuil-là, et on ne peut pas faire avancer les autres, même si on les aime très fort et si on a très envie de les tirer, de les emmener avec nous, on ne peut pas les faire avancer. C'est vraiment un chemin personnel. Donc je ne pouvais... parler que de moi dans ce deuil, parce que effectivement je peux dire que mes enfants ont bien avancé, que mon conjoint a bien avancé, mais je peux pas vous dire où ils en sont, j'en sais rien. Je sais qu'ils ont des armes différentes et je sais qu'ils s'accrochent à des choses qui ne sont pas les mêmes que moi, mais ils y arrivent bien. Mais on a chacun des choses qui nous aident, en fait, et il faut trouver ces petites choses qui sont pas forcément des choses extraordinaires, hein, mais qui peuvent être des personnes, qui peuvent être des lieux, qui peuvent être des attitudes, des moments, et il faut trouver ces choses là pour avancer.
Est-ce que la mère est forcément plus impactée, ou c'est juste une question d'individu quand même?
Non,
ce rôle de mère est aussi...
Je ne crois pas être plus impactée que les autres. Enfin, je n'ai pas ce sentiment-là. Effectivement, quand on est maman, on a une relation particulière. Et j'avais une relation très privilégiée avec Paul, parce que Paul était très collé à moi. Il a failli mourir à sa naissance et dans les 2 mois qui ont suivi. Du coup, je pense qu'on a développé une relation assez fusionnelle. Il avait vraiment beaucoup plus besoin de moi que besoin des autres. Ça, c'est une certitude. Et du coup, on a partagé beaucoup de temps ensemble, et j'ai vraiment le sentiment, moi, de n'avoir pas perdu une miette de sa vie.
C'est très beau ce que tu dis.
Donc en ça, je sais que j'ai pleinement vécu ce que nous avions à vivre ensemble, et que peut-être, effectivement, mon conjoint ne peut pas dire la même chose. Ou pas, j'en sais rien, finalement.
Ouais, il a vécu d'autres choses.
Il a vécu d'autres choses, un autre type de relation.
Des rapports complémentaires.
Mais c'est pas pour cette raison qu'il est moins impacté que moi, je crois pas. Mmh. Je pense qu'on est forcément impacté de la même façon.
Alors, si je lis ton livre, je vois différentes phases. En fait, tu parles à la fois des difficultés qui arrivent, qu'il faut traverser, et puis aussi de toute la partie un peu inattendue, joyeuse, comment les choses reviennent. Et c'est pas linéaire, on a l'impression que c'est un peu des allers-retours entre ces phases différentes. Alors, je voudrais juste un peu les évoquer, les lister avec toi pour qu'on s'en raconte le livre, qu'on revient. Donc, je trouve qu'une des difficultés qui revient, et c'est sans doute dans tout le cas de tous les deuils, voire de toutes les séparations, c'est traverser les dates anniversaires et les fêtes.
Oui.
Donc, la première année, on fait tout une première fois tout seul.
Ouais.
Et ça reste difficile. Donc, tu parles de tes 40 ans, une fête qu'il faut fêter, que t'as pas le cœur à la fête. Des anniversaires de Paul avec ce que tu organises pour lui. Bien sûr, la date anniversaire du jour de sa mort qui est marquée à tout jamais.
Ouais.
Puis des fêtes courantes, que les autres fêtes aussi. La fête des mères, Noël. Qu'est-ce que tu...
Les fêtes, j'ai découvert que les dates, elles avaient un pouvoir. Je me disais, c'est pas très important les dates, c'est pas très important de la date anniversaire de sa mort. Finalement, c'est un jour comme un autre. On va pas, c'est pas plus. Pourquoi ce serait plus difficile ce jour-là ? Et en fait, si. La date, elle se rappelle à nous de façon inévitable. Les dates anniversaires, elles sont très compliquées. Alors, il faut trouver des choses pour les passer. Et petit à petit, au fil des années, on apprend et je pense qu'on progresse sur ces choses-là. Mais effectivement, les dates, elles viennent nous rappeler le manque. Ce sont des jours de manque cruel, en fait.
Plus important que les
bien
autres,
sûr.
Parce qu'on imagine
ça,
aussi
ça nous
ce qui aurait été.
Nous ramène à tout ce qui n'est plus et tout ce qui aurait pu être. Et en fait, il faut arriver à se dire... voilà ce qui est aujourd'hui.
Revenir au moment présent.
Ouais.
Revenir
parce
au
qu'il
moment
il y a encore quelque chose. Mmh. C'est la mort n'efface pas. La mort n'efface pas l'amour d'abord.
Ouais.
Et ça c'est aussi une découverte parce que on le dit on s'aimera toujours même après la mort etc. Mais en fait on perd un enfant on se dit mais comment je fais pour aimer une personne qui est morte. Enfin je comprends pas bien. Il y a plus de retour. Il y a plus de câlins. Il y a plus comment on fait. Qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire quoi aimer une personne qui n'est plus là. Et finalement je découvre que l'amour il est là, on n'a rien à faire, on a juste à être et l'amour il s'en va pas et il est toujours réciproque.
Bon, c'est très beau ce que tu dis. Alors, dans les difficultés, on a aussi tout ce qui est papier administratif, malheureusement coller
et
puis ça nous rappelle cruellement ce qu'on voudrait peut-être pas faire.
Ce sont des montagnes les papiers administratifs, ce sont des montagnes parce que le deuil prend beaucoup d'énergie physique. On est très fatigué quand on est en deuil.
Tu parles de l'épuisement physique, mais je pense que de toute façon, la fatigue, on va dire mentale ou psychique, on récupère beaucoup moins facilement.
On est extrêmement fatigué.
La fatigue physique prend le dessus parce qu'on se laisse aller aussi peut-être à ce moment-là.
On se laisse aller, mais en tout cas, il y a une vraie fatigue, un épuisement réel et une vraie fatigue physique. Et dans l'immédiat, juste après le décès, si on dort pas bien, etc., mais on est très fatigué et le fait de devoir se rendre à un endroit particulier pour faire une démarche administrative, faire la queue, attendre, patienter au milieu de tout le monde alors qu'on est tellement hors du temps et tellement hors de la société, c'est quelque chose d'assez violent en fait. Ces démarches administratives, elles sont très lourdes. Elles sont très déshumanisées parce qu'on n'a souvent pas des personnes en face de soi. Des fois, on a juste un espace sur l'ordinateur. Il faut juste décocher une case.
Des mots creux et du manque de réconfort parfois que les gens ils savent pas quoi dire. Hein. On voit bien, vous êtes venu pour annoncer un deuil, mais comment réconforter quelqu'un à un guichet c'est compliqué aussi.
Oui, alors ça met très mal à l'aise de toute
bien
façon.
Bien sûr.
Ça met très mal à l'aise. Mais ça, je le conçois. Je pense qu'on ne peut pas... on n'attend pas du réconfort de la personne qui est derrière le guichet. Mais rien que le fait de s'y présenter
et de
d'y
dire,
attendre
mon enfant est mort,
et de devoir l'énoncer devant tout le monde. Ce sont des moments qui sont assez douloureux, ce sont des véritables montagnes, ça paraît rien comme ça, une démarche administrative, mais ce sont des vraies montagnes.
Puis, quelque part on dit ça aide à faire le deuil aussi, parce qu'on l'a énoncé, le dire à chaque fois c'est peut-être un petit pas, mais...
Peut-être.
Alors tu parles aussi de la reprise du travail, il y a des gens qui disent c'était le deuil, je me suis effondrée, je suis partie, j'ai plus rien fait pendant X mois, mais parfois il faut juste... La vie te rappelle à toi, tu es mère de deux autres enfants et donc la reprise du travail s'impose et c'est compliqué.
Alors la reprise du travail, je ne sais pas si elle s'est imposée parce que finalement j'aurais pu me dire que je ne reprends pas tout de suite, mais j'ai repris assez rapidement quand même, je ne sais plus, peut-être 2 mois après le décès de Paul. Je pense que j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose que j'aime. Mon métier est vraiment quelque chose que j'aime. Mmh. Et, Et je me suis dit, ben, maintenant ou après, ce sera pareil. De toute façon, la douleur, elle est la même. Et j'avais surtout besoin de me confronter à serais-je encore capable ?
D'accord.
Parce que, comme tu l'as dit, je suis sage-femme. Et sage-femme, c'est accueillir la vie, la oui. naissance, parfois accueillir la mort aussi. Et quand on est en deuil, on est assez centré sur soi, au départ en tout cas. Et je ne savais pas si je serais capable de m'ouvrir à nouveau à l'autre et d'accueillir les émotions de l'autre en étant pleine de mes émotions à moi. Voilà. Ouais. Et comment on accueille la vie quand on est soi-même en train d'accueillir la mort. Ça, c'était vraiment quelque chose, j'avais besoin de m'y confronter pour savoir si ça allait se faire, si ça allait être possible. Et ça s'est fait assez naturellement et assez facilement finalement.
Ok. Tu parles aussi, bien sûr, hein, il faut quand même en parler, c'est du manque, de l'absence. Oui. Hein, c'est très fort et on n'y peut rien. Est-ce que tu permets que je lise un petit passage sur
Avec
ce
plaisir.
Sujet ? On va laisser les mots parler tout seuls. J'ai pensé que j'allais en mourir, c'était certain. Y survivre paraissait impensable. Quitter cette vie constituerait encore la meilleure issue de toute évidence. Mais contre toute attente, mon cœur n'a pas lâché, ni dans la minute, ni dans l'heure, ni dans les mois qui ont suivi. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'un cœur de maman puisse résister à la perte de son enfant ? Qui a dit que la nature était bien faite ? Le manque et l'absence ont pris possession du vide, sans me tuer. Ils ont pris toute la place, l'intégralité de mes pensées, de mes journées. Nul n'est plus accaparant que celui qui n'est plus là. Parce que ta présence paraissait acquise, évidente, elle ne faisait que peu de bruit dans un quotidien bien rodé. Si j'avais conscience qu'elle restait précieuse et fragile, le tourbillon de la vie m'entraînait tout de même, mettant en sourdine tous les rappels à l'ordre. Ton absence absurde, absolue, tambourine de façon permanente. Tout me ramène à toi, tout me met face au vide. Je conduis la voiture et comme chaque fois me retourne pour te regarder. Mon regard se perd dans l'abîme d'un siège inoccupé. Je passe dans ta chambre le soir pour t'embrasser. Les draps bien posés n'ont pas été froissés. Les livres du soir sur les étagères sont bien en place. Dans la salle de jeu, les soldats dans leur château ont cessé de partir en croisade. Les voitures semblent en panne, les pelustes tristement inertes, les jouets parfaitement rangés. Et c'est ainsi. Je m'en étonne chaque jour, chaque semaine. Il faut du temps pour apprivoiser l'absence, intégrer ce fait dans les gestes du quotidien. Les usages ont la peau dure. Bah, les mots parlent un peu d'eux-mêmes, je pense que...
Tout oui, ce petit... alors j'ai pas voulu édulcorer les choses. Mm-hmm. D'abord parce que je pense que pour les gens qui ont déjà vécu un deuil, c'est pas si violent que ça d'entendre ça. Mm-hmm. Je pense que dès lors qu'on l'a vécu, on sait que l'absence et le manque, ce sont des choses qui sont... qui se présentent dès le décès et qui sont ce qu'on va devoir gérer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et voilà, j'ai pas voulu édulcorer les choses. Alors ça paraît un peu dur de le dire comme ça, mais il y a cette facette là, il y a le fait qu'effectivement le manque et l'absence sont là quoi qu'on fasse et que bien sûr ça prend toute la place, on pense plus qu'à ça. Quand on vient de perdre un enfant, la seule chose qui occupe nos journées, c'est ce manque,
c'est ce vide,
c'est passer dans la maison et réapprivoiser les pièces en se disant il sera plus jamais là dans ces pièces là mais il y a aussi qu'est-ce qu'on en fait.
Alors c'est là qu'on aborde aussi la deuxième partie hein, de ce livre qui dit comment dans cette absence, dans tout ce vide, il y a quand même des choses qui se remettent au fur et à mesure, des envies qui reviennent,
oui.
un autre rapport aussi peut-être à son enfant dont l'amour reste présent,
oui.
un autre rapport aux autres enfants qui te renvoient aussi parfois des images. Tu n'es plus la même, mais les choses reviennent. Des synchronicités aussi, tu vois des signes parfois de ton fils quelque part qui te parle d'une autre
ouais.
manière à travers un autre espace.
Ouais, c'est ça. On apprend à voir la vie. Alors, je pense que je sais pas si je suis plus la même. Je suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai un autre regard sur les choses et un autre regard sur la vie. Et je crois que être confronté à la mort, ça nous élève. Du coup, on regarde les choses d'un petit peu plus haut, d'un petit peu plus loin. Et les événements, les choses qu'on doit traverser, n'ont pas la même épaisseur. Ouais, je pense qu'on prend un autre, on acquiert un autre regard.
Et alors la joie qui revient, c'est-à-dire que même s'il y a cette absence, même si ça sera jamais exactement pareil, quand même la joie trouve sa place et elle n'est pas conditionnée par un événement ou par quelque chose. Elle est brute, elle est là, ouais. Elle est quand même là.
Alors, je pense que non seulement elle revient, mais j'ai envie de dire, elle arrive. Peut-être que je la découvre à ce moment-là. Je pense que je l'ai toujours côtoyée, cette joie. Et je crois que chacun d'entre nous, on a tous la possibilité de trouver la joie. Et qu'effectivement, quel que soit ce qu'on traverse, cette joie, elle est présente. C'est juste qu'il faut savoir la regarder et lui faire une place. C'était une grande surprise pour moi que la joie revienne parce que... Au départ, je me suis dit, bon, ok, on a perdu un enfant, on va continuer à vivre, ça c'est certain. On a deux autres enfants, on va rester debout, on va y arriver. Mais probablement, on va peut-être continuer à rire, mais je pense qu'on n'aura plus jamais, on sera plus jamais joyeux, dans le sens profond du terme. Pour moi, c'était une évidence que, voilà, il avait emmené ça avec lui, Paul, il était parti avec et il me l'avait piqué et c'était fini. Et puis, je me suis laissée surprendre, en fait. C'est un peu ce que je raconte dans ce livre, c'est que c'est une surprise pour moi de la retrouver, cette joie profonde qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui fait que, ben ouais, on est vraiment heureux. Donc ça veut dire que, ok, on peut quand même être vraiment heureux, même s'il y a cette tristesse énorme, même s'il y a ce manque, cette absence qui seront toujours là. Il y a quand même une place pour la joie. Et j'ai envie de dire, elle est presque plus intense parce que j'ai cru qu'elle était perdue.
D'accord. Alors on va écouter tes mots encore à nouveau. Car la joie revient toujours. Quelle merveilleuse découverte. Du plus bas que nous puissions tomber, elle ne déserte pas. Indissociable de notre être, elle me semble constituer l'essence même de l'homme, son élément vital. Il n'est nullement question d'être gai en permanence. Expérimenter la joie, c'est connaître en profondeur ce qui nous anime personnellement et accueillir ce qui nous élève dans les autres. S'arrimer au bras de la confiance. Le deuil exacerbe les ressentis, si aisément mis en sourdine d'ordinaire. Dans la fragilité, dans la vulnérabilité, dans la peine, l'oreille se tend vers un murmure, comme pour se préserver au moins un peu des combats superflus. Et tout à coup, à bien écouter, on perçoit timidement ce qui est bon pour soi, les êtres et les choses qui font du bien, qui tendent à réparer. Tout à coup, dans la fragilité, une force, celle de repousser sans scrupule tout le négatif, tout ce qui pourrait éroder la délicate reconstruction. La joie revient toujours, et mieux encore, elle ne dépend pas des événements extérieurs, de notre bien-être ou de ce qui nous est donné de traverser. Elle se situe bien au-delà de nos épreuves de vie, existant malgré elles, se révélant souvent grâce à elles. Je conserve cette leçon de toi, mon enfant. La joie m'habite paisiblement, profondément, irrémédiablement. Alors j'ai envie de dire que c'est presque de la philosophie, hein. Ça va beaucoup plus loin et les mots sont très beaux, donc vous savez aussi les arranger pour qu'ils nous touchent. Donc moi, j'étais admirative de ce passage, en tout cas, où tu Merci. Exprimes tout ça.
Ouais, ouais. Ce qui est important aussi, c'est faire le choix de ce qui nous fait du bien. On a parfois des scrupules, dire « Ah, ben non, je vais pas... je vais quand même y aller, même si je sais que c'est pas forcément bon pour moi. Je vais aller à tel endroit, je vais voir telle personne, je vais faire telle chose. J'ai l'impression, en tout cas, dans cette phase de deuil, qu'on s'autorise un peu plus à être à l'écoute de ce qui est bon pour soi. Alors, ça paraît un peu égoïste comme ça, mais en vrai, c'est extrêmement important de savoir accorder du temps aux personnes, aux gens, aux choses qui nous font du bien et qui nous font grandir. Et en tout cas pour moi, parce que je peux parler que pour moi, je peux pas faire de généralité, mais je crois que vraiment ce qui m'a fait avancer, c'est de faire ces choix-là.
Oui, puis en même temps tu dis de repousser le négatif, parce que finalement rien n'est grave à part la mort, hein. C'est une fois qu'on a traversé cette épreuve.
Alors la mort n'est pas grave.
Je sais pas si il faut dire ça comme ça.
Mais... je suis persuadée que la mort n'est pas grave, la mort est inévitable et c'est pas tellement important l'âge auquel on meurt aussi. Effectivement, 5 ans et demi, c'est très tôt. Mmh. Moi, j'aurais beaucoup aimé vivre encore de nombreuses années avec Paul, ça c'est sûr. Mais c'est pas très important que sa vie ait duré 5 ans et demi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a fait de cette vie-là ? Qu'est-ce qu'on en a fait, nous ? Qu'est-ce qu'elle nous a amené, cette vie sur cette terre ? Et quand on fait le bilan de ce que ça nous a amené... Bah, je trouve que c'est énormissime, ça vaut 99 ans, quoi. Enfin, c'est,
bon, après, tu décris Paul aussi comme un enfant très lumineux, hein, qui ouais, avait une
ouais,
sorte
mais
d'aura.
Je pense qu'il avait quelque chose à faire ici, oui. Alors après, c'est ma vision des choses, je veux pas
alors,
du tout...
Je dis pas qu'avoir un enfant très difficile et pas agréable et qu'il meure, c'est moins difficile ou c'est plus facile, mais c'est vrai aussi que tu as été rempli et tu as vécu à fond... ce petit bonhomme, quoi, c'est ça.
Ouais, je pense qu'on a vraiment partagé tout ce qu'il y avait à partager dans ce temps qui nous est donné, mais je pense qu'on peut chacun le faire à notre niveau de personnellement, pour notre vie à nous, et avec nos enfants, quels qu'ils soient. C'est pas tellement le temps qu'on passe ensemble, c'est plus la qualité du temps qu'on passe ensemble qui est importante. C'est qu'est-ce qu'on partage quand on est ensemble.
D'accord, donc tu penses qu'en fait, cette épreuve où ton fils, ça t'a permis d'aller tout de suite à l'essentiel, avec les gens ou avec ceux que tu côtoies.
Oui, je pense que j'ai
trouvé la qualité de la relation
un peu plus
instinctivement.
J'ai certainement plus privilégié la qualité des relations. Alors, je pense que je l'ai toujours fait parce que je crois que c'est quelque chose qui m'anime, mais c'est plus évident maintenant.
Ok. Tu racontes aussi comment tu as... Enfin, je ne sais pas, plus d'affinité pour comprendre les gens avec une certaine fragilité, une certaine différence, les enfants différents qui te rappellent Paul, ou même tu parles de ta grand-mère qui en fin de vie est un peu, ouais, qui est un peu diminuée, mais dont la relation, finalement, la relation passe par autre chose que juste les mots ou le bien-pensant. Il y a quelque chose du cœur à cœur qui se met en place plus facilement après.
Alors, pour les enfants différents, il n'y a pas que Paul qui m'a appris que la différence était une richesse. Je pense que tous les enfants nous apprennent ça, parce que finalement, au départ, quand on a des enfants, on se dit on va les élever comme ci, comme ça. On a des idées très arrêtées sur ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire, ce qu'on veut qu'ils fassent, ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et finalement, ils nous apprennent assez vite qu'ils sont eux d'abord,
qu'ils sont des personnes, des
individus à part entière, et qu'on peut les élever, bien sûr, on peut leur donner des bases et des... Et une éducation solide, mais finalement, leur personnalité, elle prend quand même le dessus. Et les enfants sont tous différents, et ils ont tous quelque chose à nous amener d'extrêmement riche. Donc effectivement, Paul m'a amené ça, mais je pense que Corentin m'a amené ça, Lauriane m'a amené ça. C'est ça, je pense qu'on grandit tous avec nos enfants.
Oui, ils nous apprennent des choses.
Ouais, ils nous apprennent tout le temps des choses, tous les jours. C'est ça qui est merveilleux, c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et pour ma grand-mère, alors c'est un peu différent, parce que ma grand-mère, effectivement, a vécu 97 ans. Les dernières années de sa vie, elle était extrêmement fragile, extrêmement diminuée. C'était une personne qui était très, très érudite, avec une certaine prestance, beaucoup d'éducation. Et j'aimais beaucoup discuter avec elle, parce qu'elle était très intéressante. Elle connaissait beaucoup de choses, elle avait très envie de nous apprendre plein de choses. Et à la fin de sa vie, elle avait perdu tout ça. Elle avait plus sa prestance, elle avait plus, elle avait même plus son sourire, parce qu'on lui avait piqué son dentier, donc elle avait même plus de dents. Elle avait plus grand chose, elle voyait plus très clair, elle pouvait plus écrire, elle pouvait plus lire. Et malgré tout, quand je l'ai vue la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'est ce que je raconte dans ce livre, j'ai vu l'essentiel. J'ai vu tout ce qui nous reliait, en fait. J'avais l'impression qu'il ne restait plus que dans ce tout petit corps frêle et très diminué, il ne restait plus que son âme. Et cette rencontre, elle restera marquée à vie parce que c'était très beau en fait, c'était pas triste. Je voyais pas une vieille personne complètement diminuée, je voyais son âme et ouais, c'est une très belle rencontre.
Très bien. Alors, tu parlais de tes enfants qui te font découvrir des choses. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale avec le deuxième chanteur que tu m'as fait découvrir qui dit « Respire »
Ouais,
il s'appelle
plaisir. Gaël Faye.
Voilà. Est-ce que c'est des auteurs que tu as rencontrés avec tes enfants ou toi-même ?
Non.
Alors, on fait une deuxième pause musicale avec Gaël Faye, « Respire ».
Radio Sud plus Réunion.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard. La vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, respire. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire,
espère. Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites. Quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer. Desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Respire. T'as le souffle court,
respire.
Quand rien n'est facile,
respire.
Même si tu te perds,
respire.
Et si tout empire, espère.
Alors c'est à nouveau Sophie avec Sylvie Pasquier sur Page en partage. Alors Sylvie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur nos ondes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte de parler de ton livre sur les ondes?
Alors d'abord, je voulais te remercier Sophie de m'avoir conviée à ton émission. Je suis enchantée et je suis honorée. Et d'autant plus que c'est pas souvent qu'on a la parole pour parler du deuil. C'est pas un sujet vendeur. Et c'est plutôt un sujet qui fait un peu fuir en général. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. Je parle dans mon livre d'une émission radio qui parle à un moment qui parle effectivement du deuil des mères qui sont désenfantées, qui n'ont pas eu d'enfant ou qui ont perdu un enfant. Et j'entends cette émission un matin alors que je suis en train de cuisiner, de faire des tâches habituelles. Et cette émission me scotche littéralement parce que je me dis voilà, sur des ondes publiques, à une heure de grande écoute, on peut parler de mort d'un enfant. et on fait une place. On fait une place à ces gens qui sont en deuil et qui se sentent tellement exclus parfois de la société, parce que finalement c'est mieux si on n'en parle pas, si on est tout le temps heureux et qu'on ne dit pas les difficultés de la vie.
En fait, je pense aussi que toi, tu peux en parler parce que tu as su canaliser ton émotion quelque part. Parfois, quand le deuil est là et quand les personnes sont tellement prises par leurs émotions qu'on n'arrive pas à les aborder sans qu'on sente que les larmes sont toutes proches et que cette douleur est tellement intense, je crois que parfois, mais les autres, ils ne savent pas quoi faire. Et puis, pour avoir vu un deuil aussi dans ma famille, bon, qui a lieu l'année dernière, on a toujours l'impression que les gens endeuillés sont endeuillés trop longtemps. Encore ? Mais tu y penses encore ? Mais ça te fait encore mal. Et puis, au bout d'un mois, deux mois, six mois, on comprend. Puis, au bout d'un an, parfois, l'entourage un peu lointain ne comprend pas qu'on soit encore là-dedans pour eux. Mais moi, j'avais écouté des émissions aussi sur ce sujet qui dit qu'il n'y a pas de limite pour faire son deuil. Je veux dire, on est toujours... mais pour arriver à
Alors, j'aime pas bien cette expression de faire son deuil. Je ne suis pas sûre qu'on fasse son deuil un jour. Je pense qu'on est en deuil à vie.
Oui.
Après, on avance avec ce deuil et on n'est pas triste à vie. Voilà. Mais on est en deuil à vie. Et le fait d'en parler... C'est remettre un peu une place à la mort dans la société. Elle a plus sa place, la mort, dans notre société. On croit qu'on est invincible, qu'on va vivre éternellement, et on veut surtout pas voir que ça a une fin. Et pourtant, le fait de savoir qu'il y a une fin, ça nous permet de vivre.
Qui peut faire du bien à une personne qu'on connaît qui a un deuil, qui a vécu ce deuil? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce que juste l'écouter ou c'est...
Ouais, il n'y a pas forcément de mots, j'ai pas de recette toute faite, il n'y a pas de mots, mais savoir accueillir ce que l'autre a à nous dire, accueillir ses émotions, accueillir le fait qu'il ait envie de parler de la personne qui lui manque, même s'il nous en a déjà parlé la veille ou l'avant-veille. Je crois que c'est ça qui est énorme, c'est savoir entendre et savoir écouter. Après, enfin, je n'ai pas de recette miracle.
Est-ce qu'il faut les traîner, les sortir d'eux-mêmes? On dit souvent, elle est en deuil, mais elle reste trop enfermée, il faut les sortir. Je crois que c'est la personne qui sait
Alors,
quand son envie revient.
On peut tout proposer. On peut tout proposer, tout est possible. Et après, il faut accepter la réponse. Je crois que la personne en deuil, elle sait ce dont elle va avoir envie. Elle va pas forcément oser y aller d'emblée, donc effectivement lui proposer de faire quelque chose, une activité, une sortie, une fête, pourquoi pas. Faut juste être prêt à entendre un non, parce que parfois on n'a pas envie et que parfois on n'a pas besoin de ça, voilà.
Okay. Très bien, alors je te remercie Sylvie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton livre et puis de ce sujet délicat.
Merci Sophie.
Avant que nous nous quittions, je voulais lire avec toi en ta présence un poème de Franceline Fontaine que nous avons reçu il y a quelques semaines à Page en Partage, qui est écrit en créole et qui a aussi traversé cette épreuve. Donc je vais essayer de dire ces mots, donc j'ai aussi un peu de mal parfois à lire en créole, donc ils sont aussi pleins de simplicité et d'émotion. Ça s'appelle Oiseau blanc. Moi-même, petit oiseau blanc, mon zèle l'a fine poussée. Demain, dans de grands bars jour, ça a l'air pour moi aller. À l'air que soleil, ça peut lever, papa, maman, moi va quitter. Fini le temps pour jouer canette, dans le ciel, mico cachette. D'ici la terre, moi les souffrants, mais dans les airs, ma gagne l'élan. Moi-même, petits oiseaux blancs, n'a retrouvé, papa, maman. Ça sera un oiseau, sûrement un petit tout blanc. Là où l'hiver volé, semble tout un banc d'enfants. Par l'autre côté son nid, dans son sommeil, déjà l'y plane. Par l'autre côté la vie, dans le bras soleil, son mal y fane. Faudra penser qu'au des tiselles dans le dos un petit linge blanc. Ça sera un petit oiseau, sûrement un petit tout blanc. C'est un petit oiseau blanc. Pour de vrai, l'île est tout blanc. Si la montagne, si l'océan, l'y vole, l'île est content. Dans la chorale, tis anges, au premier rang, là, l'y répète. Inquiète pas où, papa ou maman. Tous les matins, si la fenêtre, si son rebord, ma peau se poutouée, un petit plume blanc. C'est un petit oiseau blanc. Pout de vrai, il est tout blanc.
Merci.
Voilà, donc c'est le mot de la fin avec Sylvie Pasquier ce matin. Mais j'ai encore un certain nombre de livres à vous présenter. On revient tout de suite.
Radio Sud plus Réunion.
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire.
C'est toujours Sophie et vous écoutez Radio Sud Plus. Nous sommes dans l'émission Page en Partage. Nous avons reçu aujourd'hui Sylvie Pasquier pour nous parler de son livre La Joie Miraculée. Vous pourrez la retrouver à l'espace culturel Leclerc de Saint-Leu le 5 et 6 novembre. Elle dédicacera son livre dans le cadre du Salon du Livre Réunionnais. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui d'un autre ouvrage que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, de Mélissa d'Acosta. Donc c'est une auteure qui a écrit un premier livre à succès qui s'appelle Tout le bleu du ciel, donc un livre que j'ai découvert parce que sa couverture m'attirait, on voyait un bébé bus, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui, se sachant condamné par une maladie grave, va entreprendre un tour de France avec une inconnue, et c'est une belle histoire, donc qui parle de résilience aussi. Et le nouveau roman de Mélissa Dacosta, donc qui a 29 ans, qui a d'abord publié sur Amazon, puis ensuite une plateforme qui s'appelle My Best Seller, je crois. Et elle a été remarquée parce que son livre a été lu par des lecteurs, et ensuite elle a été publiée. Donc dans ce livre, Les Lendemains, donc c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui perd dans un accident son mari subitement, et elle perd le même jour l'enfant qu'elle portait. Donc c'est un drame très très fort, et sa solution à elle, c'est d'aller, de fuir. Elle ne veut pas se confronter à son appartement, aux souvenirs, donc elle va aller s'enfermer dans une maison en pleine campagne. Et comme elle a perdu son mari le jour de la fête de la musique, c'est le plein été, et elle veut être dans le noir, donc elle ferme les volets, c'est fermer les volets et ne plus penser à demain. Donc elle va pas voir toute cette phase où elle dort, elle s'isole, elle ne veut voir personne. Et puis ben, les choses vont avancer petit à petit, parce que ce qui est intéressant dans le livre, c'est comment est-ce qu'elle va prendre en main les choses pour avancer. Donc elle parle aussi de toutes sortes de rituels qu'elle invente, parce que aller sur la tombe de son époux, ça lui paraît hors de ses forces, enfin elle ne peut pas le faire, donc elle va s'inventer ses propres rituels. Elle va mettre des bougies et éclairer le jardin les soirs de pleine lune. Elle va décorer un arbre, faire appel à sa créativité pour mettre un petit peu la joie en avant. Elle va choisir un arbre dans la forêt où elle va spécifiquement aller se recueillir, mettre son alliance au pied de cet arbre, apporter à chaque fois des petits objets pour continuer en ce lieu à parler et à développer une relation avec son époux qui n'est plus là. Et puis petit à petit, ben, les choses vont se mettre en place, mais on voit la lenteur, hein, le temps qu'il faut pour passer à autre chose, la difficulté des fêtes de Noël, des fêtes anniversaires, comme on en a parlé avec Sylvie. Et puis dans le cadre de ce roman, ben, la maison qu'elle a louée appartenait à une vieille dame, et en étant dans cette maison, elle découvre de vieux almanachs de cette vieille dame qui donne toutes sortes de conseils de jardinage. Donc elle décide de remettre en place un potager, et elle enfouit au cœur de l'hiver toutes sortes de semences, et elle aura au printemps la joie de voir ses légumes pousser, un peu comme des enfants qu'elle a amenés à nouveau à la vie, et qui vont aussi par leur vitalité la guérir. Elle va pouvoir partager les fruits de son potager avec d'autres et se remettre comme ça à la vie. Donc c'est un très très beau roman que je vous recommande, donc Mélissa Dacosta, Les Lendemains, qui parle du deuil et aussi de la résilience. Donc pour rester dans le thème du jour, j'ai aussi trouvé il n'y a pas très longtemps un petit ouvrage de poésie de Pascal Boulanger qui s'appelle « Un ciel ouvert en toute saison » et qui a été édité au Corridor Bleu. Donc le Corridor Bleu est une petite maison d'édition qui édite aussi des auteurs de La Réunion. Ce n'est pas forcément le cas de celui-ci, mais il parle de son amour de père pour ses enfants. Donc, et c'est écrit en prose, c'est très très beau, donc plutôt que d'en dire beaucoup, je me propose de vous lire quelques mots qui disent ce que c'est que d'être père. C'est pour moi le premier jour de la création. D'emblée, je scrute et je compte les pieds, les mains, les doigts des mains, les doigts de pied. Tout va bien, vous êtes entière. 18 mois vous séparent, mais rien ne me sépare de vous. Que pouvait m'offrir de plus extraordinaire votre maman? Je m'engage avec vous dans un monde inconnu. Plus rien ne sera banal. Le voyage peut commencer et il commence, en effet, avec tout autour des démons et des anges. Je ne serai jamais déçue. Voilà, tout est prêt pour moi, pour vous accueillir. Ceux qui passent sans s'arrêter sont témoins de ma joie. Être père, ça me rajeunit d'un coup. Voilà, donc ça c'était un petit passage, donc il raconte la naissance de ses filles. Et puis, il raconte aussi le moment où les enfants partent, mais où il faut encore les accompagner. Je trouve que c'est aussi bien dit, donc je vous en lis un deuxième petit passage. Bientôt, aucune amarre jamais plus ne vous retiendra au rivage, car on ne tient rien, on ne peut rien tenir ni retenir. Voilà ce que je sais, ce que j'aime et redoute à la fois. Voilà ce qu'il faut savoir et aimer. Voilà ce qu'il en est d'un savoir d'amour. Je m'exerce à perdre ce que j'aime, je dois aimer ce qui m'échappe. Les oiseaux s'ouvrent aux étangs, mais nous savons-nous choisir d'instant en instant? On doute, on tremble de douter, on trouve et on ne trouve plus un amour. Dans l'échancrure des jours et des nuits, qui fera place à vos adolescences? Quand le monde des parents va-t-il se retirer pour vous dévoiler un espace enfin nu et disponible? Alors je vous invite à consulter cet ouvrage, Pascal Boulanger, Un ciel ouvert en toute saison. Et pour finir, je voulais dire aussi que le rapport aux enfants n'est pas fait aussi toujours que de joie. Il y a des enfants et des relations qui sont plus difficiles. Donc je voulais vous parler d'une nouvelle que j'ai lue dans Lettres de Lémurie, donc une édition aussi de l'océan Indien, ou qui regroupe un certain nombre de textes et de poèmes. Et la nouvelle dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle « L'été de Godzilla » de Frédéric Trigaudet, qui est une petite nouvelle qui parle de grands-parents qui reçoivent une petite fille et qui est dans une ferme, et qui est une petite fille pas facile, où ils ont quand même des difficultés à établir un lien avec elle. Donc elle joue avec le coq, et puis elle casse beaucoup ses jouets, et puis c'est un peu compliqué. Donc on comprend à la fin que ce n'est pas leur petite fille, mais c'est la fille de la mère de la femme de leur fils. Et ils disent qu'ils n'ont pas de facilité à établir un lien avec cet enfant, que cet enfant est difficile, qu'elle fait, semble-t-il, des bêtises, mais qui ne sont pas bien grandes, et que finalement, le coq va finir par passer à la casserole. Et la gamine, elle fait un peu une crise quand elle apprend que son papa et sa maman vont avoir un autre enfant. Et c'est à ce moment-là que je veux vous lire la fin de cette nouvelle. Qui parle de ce coq. En revenant, je dépose avec fracas la cocotte fumante devant le nez de la petite avant de balancer. Allez, on va fêter ça avec un bon coq au vin. La gueularde se tait aussi sec. Elle se fane à en devenir presque transparente, tremble puis se reprend. Alors que je crois avoir gagné, elle me lance le regard le plus sombre et le plus glaçant que j'ai jamais vu. Elle doit tenir ça de son père. Pas mon fils, l'autre. Celui qui les a lâchés à sa naissance, celui qui n'a jamais voulu officialiser et qui a déménagé avec femme et enfant, loin, très loin, sans jamais la reconnaître. Ma belle-fille n'a jamais voulu dire qui c'était, elle est têtue. Elle a donné son nom de famille à la gamine et n'a plus jamais parlé de cette histoire. Mon fils les a prises sous son aile, il a épousé la mère et tente d'élever la petite. La pupille scarabée de la bâtarde me fixe comme si elle allait se jeter sur moi. Du haut de ses presque 6 ans, elle serre les mâchoires et les poings, mais ne bouge pas un cil. Je sens sa haine me frapper de plein fouet. Mes mains sont moites, mon visage poisseux. Je brise le silence en versant du vin dans les verres et porte un toast à la santé du futur bébé. La gosse ne m'a plus adressé la parole jusqu'à la fin de l'été. Ça ne m'a pas fait grand-chose. De toute façon, je ne me suis jamais bien entendue avec elle. Pourtant, elle a fait un truc que je n'oublierai jamais. Ce jour où nous avons appris ce qu'elle avait bien senti avant nous, tandis que je soulevais le couvercle de la cocotte, elle a tendu son assiette. Autour de la table, les rires se sont éteints. Je l'ai servie copieusement, dans un silence de mort. Elle a mangé sa part jusqu'au bout, en mâchant bruyamment et en rongeant chaque os. Puis, elle s'est léchée les doigts, comme un petit animal, en nous dévisageant. Les autres ont fait mine de ne pas la voir. Elle a quitté la table avant le dessert pour se planquer dans sa cabane. Il paraît que l'hiver qui a suivi, Dans sa liste de Noël, au milieu des Lego et des Playmobil, elle a commandé un arc, des flèches et une tronçonneuse. Ses parents lui ont offert une panoplie de princesses. Cet été, la petite n'a pas voulu revenir. On n'est pas du même sang, elle l'a bien senti. On peut au moins lui accorder ça, cette gosse est maligne. Voilà, une petite nouvelle donc dans les lettres de Lémurie, donc à nouveau des histoires courtes. C'est fini pour aujourd'hui, donc je vous dis à la semaine prochaine, à nouveau sur Radio Sud Plus et sur Page en Partage. Bonne semaine à tous.